Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être au rendez-vous du magazine de la moto et des motards en direct du 38e salon de la moto de Pécancourt. Je suis en compagnie, comme d'habitude, avec le président du motoclub. Oui, Joël, bien sûr. Tu m'as fait un petit dessin sur le front, merci, c'est très sympa. Voilà, donc je suis avec le président Joël Pirache, président du motoclub de Pécancourt. Joël, bonjour. Non, mais parlons de micro.
Ah d'accord.
Tu vas te faire...
C'est la technique qui avance.
Mais voilà.
Y a pas de problème.
La question, comme d'habitude, ça s'est bien passé hier. Un soleil fantastique. Je sais pas comment vous avez fait, vous avez de la chance. Pas possible.
Hier, vous étiez présent, donc vous avez pu voir que les conditions climatiques étaient au rendez-vous.
Il n'y a pas de vent pour les...
Il n'y a pas de vent pour le freestyle, parce que je sais que le freestyle, c'est très important. Ils sont à peu près à 8 mètres de haut. C'est ça à peu près, Tom? 8, 10, 9 mètres.
Voilà, donc on est aussi en compagnie de Tom Pagès. Tom, bonjour aussi. On va faire une petite discussion peut-être.
Ouais. Oui, ouais, bonjour. Les conditions idéales pour le freestyle.
C'est aujourd'hui.
Aujourd'hui et hier aussi. Faut bien le dire, pas de vent pour nous, c'est incroyable. Ça veut dire pas de risque extérieur et se focaliser juste sur la performance. Et hier, on a vu une super démo. Ouais.
Une belle démo, parce qu'il faut savoir que quand il y a un peu de vent, c'est la moto avant qui risque de bouger. Et pour la réception, tu vois, je commence à comprendre un peu le...
Bien,
c'est important pour eux.
Surtout quand le vent est en latéral. Si on l'a de dos ou de face,
ça fait bouger la moto de travers, de la mettre de travers. Ça et à la réception, c'est pas évident.
Quand la moto est de travers à la réception, c'est en gros comme quand on perd l'avant en moto sur la route.
Oui.
C'est pas drôle.
Et là, il vaut mieux perdre l'avant quand on fait un saut, parce que... si vous avez backflip, c'est ça, il y a double. J'ai même entendu dire, il y a triple backflip maintenant, non?
Il y a tout. On n'a pas encore le double ici à Pécancourt, mais ça ne serait tardé. J'espère être sur pied.
Et tu penses pouvoir. Tu le fais déjà, ce triple?
J'ai passé une fois, ouais. Mon but, c'est d'essayer de l'apporter ici, bien sûr.
Dites comment vous faites pour vous entraîner, parce que c'est bien beau, mais. Moi j'ai peur pour vous. Quand je vous vois là-bas à 10 mètres d'hauteur en train de faire une pirouette.
Il y a des risques, il y a beaucoup d'entraînement.
Une figure.
On s'entraîne en règle générale dans un bac à mousse.
C'est une pirouette.
On a un bac à mousse et du coup ça nous permet de répéter des centaines de fois la figure et de là.
La répétition elle dure combien de temps? Des mois
Ça dépend des figures, il y a des figures où ça m'a pris 5 ans.
C'est quand même 5 ans.
Ouais, 5 ans. Ouais. Donc le moment où ça passe, c'est gagné. Voilà, faut essayer de passer sur l'événement.
Et le moment où on décide d'enlever la mousse et qu'on va vraiment faire en réel la figure.
Ça peut faire peur et certaines fois on a besoin du public. Donc ça m'arrive de tenter la figure la première fois sur le dur, sur la réception. En démo,
d'accord.
Et d'arriver à Pécancourt, mettons, avec beaucoup de stress parce que la figure est nouvelle.
Ouais.
Il faut savoir aussi, c'est que c'est une discipline qui est en perpétuelle évolution. Et on le voit d'ailleurs, ne serait-ce que dans la préparation de nos rampes de réception, nous sommes pratiquement 2-3 jours avant de faire venir des équipes pour s'adapter aux figures, aux évolutions des figures qu'ils ont déjà réalisées et aux nouvelles figures.
D'accord. Alors les rampes, tout ça, vous participez les pilotes avec les organisateurs?
Ah ça c'est sûr. Et ce qu'on peut rappeler, c'est qu'ici au motoclub de Pécancourt, on a l'impression que c'est une démo banale. Les gens ne se rendent pas compte qu'ils voient le meilleur niveau mondial et le motoclub met tout en œuvre pour nous donner les outils nécessaires, la sécurité, parce que c'est hyper important. Si on a une super réception et une super rampe, et ben on va être en sécurité et ça c'est pas partout qu'on le trouve.
La distance entre la rampe et puis la réception aussi, elle est importante?
La distance est toujours la même, on a une distance de 23 mètres. Ouais. Comme ça on est calé, si on nous change la distance, ça va changer l'évolution et la façon de faire la figure. Et ça on ne veut pas arriver au dernier moment en nous disant tu vas sauter plus loin aujourd'hui.
D'accord, ok. Et donc là, aujourd'hui à Pécancourt, enfin hier et aujourd'hui, tu signes des autographes parce que tu t'es blessé sur un saut.
Ouais, c'est sûr, j'ai un peu trop poussé à l'entraînement.
L'entraînement.
C'est la semaine dernière en préparant cette édition justement pour en essayer d'apporter des figures un peu plus compliqué que d'habitude. Je me suis luxé l'épaule et je suis présent ici, mais parce qu'il y a beaucoup de fans, beaucoup de gens qui veulent me voir, et donc j'essaie d'être là, mais malheureusement, mardi, je suis au bloc opératoire pour l'opération de l'épaule.
Voilà, d'accord. Donc t'as gagné les Red Bull, c'est ça?
Ouais, j'ai gagné depuis 4 ans.
Ouais. Et donc tu m'as dit que c'était cette épreuve-là, elle est plus importante que le championnat du monde de FMX.
Exactement, on a un championnat du monde, moi j'y participe pas et la plupart de mes coéquipiers adversaires ici à Pécancourt n'y participent pas non plus. On est le championnat des Red Bull X-Fighters qui se déroule à Madrid tous les ans et plus le niveau est plus relevé. Ouais. Et Et Pécancourt est plus relevé que le championnat du monde aussi. C'est...
Mais d'ailleurs, à Madrid, il a fait un show superbe qui est resté un show d'anthologie où tu as gagné. J'ai encore beaucoup en replay chez moi. Et il faut savoir aussi que Tom est licencié au motoclub de Pécancourt.
Oui, je sais. Bah, de toute façon, qui n'est pas licencié au motoclub de Pécancourt, Joël.
Non, mais on va un peu plus loin. Ouais. Quand on a des grands pilotes comme ça, c'est un plaisir pour nous de les accueillir et qu'eux parlent d'un club. Ils voyagent partout dans le monde et être attaché à un club d'une ville de 6000 habitants, c'est important. Ça.
D'accord.
C'est un peu unique. C'est vraiment, c'est unique même de voir un salon de 50 000 personnes comme ça sur un salon. C'est énorme.
D'accord. Quel est le concurrent qui t'impressionne le plus ou que tu redoutes quand tu fais une compétition?
Ils sont ici. Il y a le japonais Takagi Hashino. Ouais. On a Clinton Moore aussi et Jackson Strong, l'Australien. Ce sont trois pilotes qui gagnent à plusieurs reprises et j'ai du mal à aller chercher les victoires.
Ah ouais, d'accord. Le public américain, il est plus chaud qu'en France au niveau de ce sport, là, de cette discipline?
Pas beaucoup plus. Le public américain est plutôt devant sa télé parce que les événements, eux, retransmis à la télé. Donc, ouais. C'est plutôt devant la télé et nous, en France, on se déplace sur les événements. Pour faute d'avoir la production en live et la plus d'ambiance ici chez nous, bien sûr.
Voilà. Et au niveau, on gagne plus d'argent quand on va là-bas, vous avez ça ou non
que c'est, Non, ça change à rien, ça, ce qui est difficile, c'est les figures.
Et on fait cette discipline jusqu'à quand, jusqu'à quel âge?
Et ben là c'est compliqué, je sais pas quand est-ce que je vais m'arrêter, mais je deviens vieux.
sans indiscrétion, t'as quel âge?
Je vais avoir 32 ans.
Oh, ouais, c'est vrai, ça va encore, hein. Je pense que t'as encore quelques années encore. Voilà, oh, c'est jeune. Voilà. Joël, on parle un petit peu du salon, du programme de cet après-midi. Avec les ventes passes, je sais que tu aimes bien le groupe, les ventes passes.
Oui, ben, cette année, on a décidé de revenir à des groupes un peu plus traditionnels, puisqu'on a eu hier Elmer Fobit et aujourd'hui, c'est les ventes passes. Donc, il est déjà venu deux fois à Pécancourt, il y a 4 ans, et qui met une ambiance super. Mais bon, le salon aussi, ça sera d'un côté des expositions et de l'autre côté des animations. Alors, les expositions, on a déjà pu voir, hormis avec tous les stands ici d'exposants, d'accessoiristes, et ce qui nous fait plaisir, parce que moi, je revois les gens repartir du salon, et souvent avec des sacs. Ils ont fait des bonnes affaires, et voilà, au moins, ils en ont profité. Mais on a des expositions de motos anciennes, vous aurez l'occasion sûrement d'en parler. Vous avez la collection de Ludovic Lazaret, des Rats, du Custom, donc plein, des démonstrations. La farce, c'est le freestyle, bien sûr, et on attendait, mais je crois que Tom reviendra bientôt avec beaucoup. Parce qu'on avait même l'année dernière, on a préparé une butte presque pour lui, voilà.
Ah ouais.
Mais c'est pas grave, le principal c'est qu'il puisse revenir en grande forme. Et puis on a du stunt, on aura du super mode, un petit côté sympathique avec un funambule. Voilà, on a de quoi aujourd'hui. Et puis si vous avez une pièce de 2 euros, vous pouvez gagner une moto.
Ah oui,
après
j'ai vu, jouer.
Une belle moto, hein, une Honda. Une Honda. Voilà.
Ah oui, tiens, justement, si je te dis 46, ça dit quelque chose?
46?
Oui.
Oh. Je sais que tu es parti tout à l'heure pour me poser une colle, mais je préfère 93, c'est un peu plus nombreux.
Justement, tiens, le championnat du monde de vitesse va commencer dans 15 jours, là, au Qatar. Tu as un pronostic pour la fin de saison, pour celui qui sera le pire, qui sera champion du monde 2017?
Je sais qu'il y a eu beaucoup de changements, et tout ce qu'on souhaite, moi qui regarde ça forcément de mon poste, c'est qu'il y ait beaucoup d'animation, que ça se passe bien, et que le meilleur gagne et qu'il n'y ait pas de blessés. Alors on a chacun sa marque préférée, mais bon, le principal c'est qu'on a un beau championnat. Alors,
on va le dire, hein, le président du motoclub de Pécancourt est plutôt pro Honda. Hein. Ah, Julien, tu confirmes?
Tout à fait, oui, voilà, je confirme. Joël a toujours été pro Honda. C'est super ça.
Et Tom, tu suis toi le champion du monde? Ça t'intéresse?
Ouais, ça m'intéresse vraiment. J'ai malheureusement pas vraiment le temps de suivre, mais j'aime beaucoup la vitesse.
Ouais. Ouais. C'est aussi impressionnant. Hein.
C'est impressionnant. Et
les angles que les pilotes arrivent à prendre maintenant avec les pneus, la technologie
ça,
aussi.
C'est sûr. C'est un sport que j'aime pratiquer aussi. Parce que je roule aussi un peu en vitesse. Donc,
D'accord.
Donc je connais ça. Ouais.
Et comme ça, pour par
distraction. Exactement, c'est mes vacances.
D'accord, c'était
vacances. J'ai une R6 et voilà.
Ok. Je vais parler avec Julien. Julien, bonjour.
Bonjour la Miche.
Toi, donc, tu présentes le bivouac à Dakar.
Tout à fait, oui. Je présente le bivouac du Dakar pour la deuxième année consécutive. Cette année, avec tous des nouveaux camions du Dakar qu'on a fait sur la piste et tout. Vraiment, on a toutes les motos officielles qu'ils ont fait le Dakar, dont celle d'Adrien et René Fagotter, Boturi et Elder Rodriguez. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est super de revivre ça pour le public et tout. Et vraiment impressionné par les matériels qu'on y met sur les moyens sur le Dakar. Ouais. On voit ça vraiment une fois en France, c'est à Pécancourt. Nulle part ailleurs, ce matériel-là, vous ne l'aurez dans aucun salon.
Voilà, et je rappelle aussi que tu es le responsable en
France. Tout à fait, oui. De la logistique, gère la logistique de Yamaha Rally.
D'accord,
tout à fait.
Voilà. Voilà. Joël, dernier mot pour la fin de cette interview. Joël ?
Ah oui, bah dernier mot, mais je pensais que tu allais me poser une question.
Non, on est bien. Je te pose une question, un dernier mot, voilà.
Le dernier mot, c'est qu'on est content, parce que forcément, une manifestation avec beaucoup de choses à l'extérieur, on a besoin de la météo, et aujourd'hui, on a encore la chance d'avoir... Et puis aussi, ce qu'on voudrait dire, c'est que ce salon, un salon particulier aujourd'hui
pour nous... Je voulais venir là, dédié aussi à Bernard, l'un des fondateurs du motoclub.
On dédie à Bernard, et savoir qu'on a aussi perdu 6 personnes l'année dernière dans le club, 2 jeunes. La passion de la moto les a pris, 4 autres personnes. On a perdu Gilles aussi, qui était notre secrétaire, et Bernard, l'emblématique, et qui était la création du salon. Alors, d'où ils sont, ils doivent être contents.
En 1980. On ne sait pas trop, 81 ou 82.
Non, c'est 80. C'est 80. J'ai encore le carton d'invitation de la première et de la deuxième édition du salon de la moto qui était sur la place de Pécancourt.
Et dans 2 ans, donc 40 ans de salon, qu'est-ce que vous allez faire?
Dans 2 ans, le problème, c'est qu'on doit faire quelque chose de particulier. Donc on va mettre Tom au moins un mois avant sous couveuse. Comme ça, il ne pourra pas prendre de risque. Mais c'est bien. On sera forcé, puis on aura envie d'apporter quelque chose. Mais on est plutôt en train de préparer le salon de l'année prochaine, puisqu'on essaie de prendre quelques contacts sur le salon par rapport à des collections. Parce qu'il faut savoir que même si on a des thèmes différents de collection, ce ne sont jamais les mêmes motos. Voilà.
Donc, faut s'y renouveler.
C'est renouvelé à chaque fois. Toi qui vois les stands, tu t'aperçois bien que voilà, c'est un peu une difficulté qu'on a pour renouveler, retrouver des collections. Mais bon, c'est un challenge qu'on a un grand plaisir à faire.
Très bien. Merci Joël, je te laisse. Bonne fin de salon pour cet après-midi. Hein. Il doit pleuvoir vers 18h, alors plus 9h.
Je ne sais même pas.
Je sais même pas s'il va pleuvoir.
On nous avait annoncé de la pluie,
oui,
vous voyez, la pluie
je
recule.
Je ne comprends plus rien à la météo, donc apparemment il fait beau et les gens sont heureux. Voilà.
Merci.
Bien, merci Julien.
Merci
Tom, et puis un bon retour pour
faire
de la moto.
Et à l'année prochaine.
Merci. Toujours en direct du 38e salon de la moto de Pécancourt, je suis en compagnie de Michel et de Régis, qui sont, alors ils m'ont dit, les bénévoles de l'ombre, le loisirs et traditions de France. Ce sont les bénévoles du musée Motobécane. Vous exposez, messieurs, bonjour.
Bonjour. Bonjour. Bonjour.
Parlez bien en face du micro.
Voilà. Bonjour.
Voilà. Bonjour. Et donc là, vous avez un stand aujourd'hui, ici au salon de Pécancourt, et vous exposez une dizaine de machines.
Huit machines, oui, voilà. Effectivement. Huit machines et un sidecar.
Oui. Je vois que vous avez la 350 Motobécane.
Effectivement.
La question que j'avais posée hier, on m'a dit que la 500 cm3, elle n'a jamais existé.
Elle n'est jamais sortie. Elle est sortie
elle
en existe, prototype.
Le moteur existait.
Elle est sortie en prototype, mais elle n'a jamais été sortie au public.
Parce que je me souviens qu'à l'époque, dans les revues, on voyait cette moto, hein, et on voyait bien 500 sur les carters, on voyait bien 500 cm3.
Il y a même des vicieux qui ont gardé le code des 500 pour mettre des 125 dessus.
D'accord, voilà, très bien. Donc vous faites partie du musée Motobécane aussi, qui se trouve à Saint-Quentin.
Voilà, on se trouve à Saint-Quentin, rue de la Fère. Voilà. Donc à côté d'un dépositaire de motos, on est dans l'ancienne usine Motobécane sur 3200 m², hein, et donc on expose 110 machines à peu près. Donc on a les vélos, les mobilettes, les boosters,
et
les motos.
Et certains prototypes.
Et les prototypes, hein, les prototypes que vous n'avez jamais vus.
Uniquement Motobécane. Hein.
Uniquement Motobécane.
Tout Motobécane.
Voilà.
On a deux voiturettes en prototype.
Dont une qui revient d'Amérique, qui avait été vendue en Amérique et qu'on a rachetée par une vente aux enchères pour récupérer impérativement cette voiture qui est arrivée dans notre musée.
Très bien. C'est ouvert le week-end, on peut aller visiter le musée.
Absolument, c'est ouvert le week-end, c'est fermé le lundi, c'est ouvert tous les autres jours.
Voilà. Ça fait une bonne idée de balade parce que nous, on édite un calendrier, hein, et on vous a mis en page 29, pour donner des idées de balade aux motards. Là, il va commencer à faire beau, il y a du soleil, et éventuellement, on peut venir le week-end admirer ces machines.
Tout à fait, donc nous, on a mis une petite heure ce matin pour venir en voiture, donc en moto, vous mettez une demi-heure, hein, c'est clair.
Il faut savoir que c'est une visite qui fait 2h30 à 3h, voilà, si on est bien intéressé. Hein.
D'accord.
Les gens intéressés
mettent plus de 3 heures de lire les panneaux aussi, puis l'histoire historique de tous les modèles.
Et en plus des mobilettes, il faut savoir qu'aussi on a 55 thèmes sur les vœux métiers d'antan.
D'accord.
Oui. Alors bon, ça fait une belle visite à faire.
Des affiches, je suppose aussi, non? Des affiches.
Pareil, vous retrouvez tous les vieux métiers avec des gens qui sont à l'intérieur dedans et qui peuvent vous expliquer.
D'accord. Est-ce que Motobécane s'était inscrit en compétition en 125, je crois, hein, avec la LT2
On a ce modèle-là, effectivement, aussi au musée, hein, qui a couru. Et on l'a en exposition aussi.
Très bien. C'est le prix d'entrée du musée, c'est combien?
Alors, il était à 9 euros, mais bon, on a des prix de groupe. Hein.
D'accord. Oui, il vaut mieux téléphoner, se renseigner avant.
Bien sûr.
Et puis vous avez un site internet.
Il y a un site internet. Voilà. Et puis après, à voir si vous voulez les autoguides ou alors éventuellement un guide de chez nous.
Très bien. Et on parlait de la chaudron.
La chaudron, alors, effectivement.
C'est le passé des travailleurs, ça.
La chaudron et la 88, alors, ça, c'est une mobilette qui a marqué,
pour
ça.
Pour les jeunes qui ne connaissent pas, il faut expliquer ce que c'est.
La chaudron, c'est l'orange, hein, avec son sel biplace.
Absolument. Elle a toujours été orange.
Et ça a toujours été sa couleur, donc pourquoi elle a été appelée chaudron.
Voilà. Et le réservoir, il est comme une moto.
Hein. Oui, il est chromé avec les plastiques à l'avant pour les genoux, pour pas esquinter les genoux.
Et la bleue, non, le réservoir est dans la poutre centrale.
Et dans le cadre.
Voilà. Eh bien, écoutez, messieurs, je vous remercie d'avoir répondu à mes
questions. Tout le plaisir était pour nous.
On viendra voir un peu.
Merci à vous et à bientôt.
Alors, n'hésitez
de vous rencontrer à Saint-Quentin.
Ce sera avec plaisir qu'on vous recevra.
Merci. Attendez, ne bougez pas. On va parler avec Jean-Luc Gagnard, qui est collectionneur aussi. Alors, qui a un musée, mais alors c'est un musée privé. Hein, Jean-Luc,
oui,
bonjour.
Bonjour.
Et chaque année, Jean-Luc, ici au salon de Pécancourt, tu nous présentes une série de motos. Hein, et cette année, tu as pris le thème comme thème, c'est Monet Goyon. Pourquoi? Parce que
c'est le centenaire, tout simplement.
C'est le centenaire parce que j'ai dit le 2 avril 1917, eh bien la firme donc Monet Goyon est créée. en fait. Alors c'est Monod et Monet et Goyon.
Voilà. Hein.
Pourquoi Monet et Goyon, tu peux
alors,
expliquer
Joseph Monet qui était un ingénieur. Et puis Adrien Goyon, qui était quelqu'un qui a un peu plus de moyens, un peu de financiers. Donc dans l'histoire, en fait, il y a souvent ce partenariat entre les gens qui avaient le savoir mécanique et puis souvent un financier, quelqu'un qui était passionné par tout ça et qui voulait lancer une entreprise, ce qui a été leur cas. Et voyant, bien sûr, on était en pleine guerre 14, voyant l'importance et la misère qu'il y avait avec tous les blessés qui revenaient du front, qui perdaient des jambes et tout ça, qui avaient des problèmes de mobilité. Donc, ils décident de sortir le Vélociman. C'est le premier véhicule qu'on voit sur l'exposition, d'ailleurs. Hein, en fait, c'est un tricycle avec des manivelles pour pédaler avec les mains.
Hein. Ça, c'était pour les soldats qui avaient
les mutilés
perdu
de guerre.
Un membre. Et puis voilà, donc ils pouvaient donc se déplacer.
Voilà. Et on voit qu'à partir de 1919, donc ils fabriquent un petit moteur, un auto-wheel, une roue motrice, qui peut se fixer derrière le Vélociman. Ensuite, ce moteur, il est transféré dans une moto légère. C'est la toute première moto Monet Goyon qu'on a aussi sur le stand. C'est un engin très simple, très rudimentaire. C'est un petit moteur de 117 cm3 avec un moteur 4 temps, avec une soupape automatique, une admission automatique et un échappement commandé. Et ce moteur, il continue après dans le vélo auto.
Le vélo auto, c'est
ça, oui. Qui est un espèce de entre le scooter, la petite moto avec un petit siège en osier. Après, ils font l'automouche.
L'automouche, oui.
Oui. Alors l'automouche, c'est une place ou deux places. C'est pareil, des sièges en osier, des sièges en vis-à-vis ou dos à dos. Enfin, tout se fait un peu, suivant la demande. Ils ont fait aussi des tricars, des engins comme ça. Mais le premier grand succès de la marque Monet Goyon, en fait, c'est la 147 Monet Goyon qui était à Courroies avec une boîte de vitesse. Et là, ils en ont vendu beaucoup. C'était une grande réussite, comme chez Motobécane qui, eux, ont fait la MB1 à 600 000 exemplaires la première année. C'est quand même énorme. Donc, c'était le début des petites pétrolettes, des petites motos à courroies. Et c'était le relancement de la moto en France.
Donc la production Monet Goyon, c'est toujours un monocylindre. Hein.
C'est un monocylindre,
voilà, oui. C'est toujours
un monocylindre.
Et donc ça a été jusqu'à 500 cm3 maximum, je crois.
Oui, les plus grosses Monet Goyon, c'était 500. Hein, des modèles latérales, semi-culbutés ou culbutés.
Ouais. Alors, tu présentes aussi des Cochlear Escoffier.
Oui, alors
donc, là... Parce qu'en 1930, Monet Goyon va racheter cette marque.
Oui, en 29, donc c'est Raymond Guiguet qui est responsable de la firme Cochlear Escoffier. Hein, donc je fais un petit détail sur le stand. En fait, on présente les toutes premières Cochlear Escoffier, les mandolines. On a la toute première, celle de Jules Escoffier, qui est sur le stand. Et on a tous les modèles de mandolines qui existent, six versions, dont quatre actuellement sont uniques au monde. Hein, on a aussi les modèles Arbracam en tête, la 500 et la 1000 de Georges Monneret. Donc ça, c'est pour présenter cette marque. Donc après, Jules Escoffier en fait meurt en 1914, pas de la guerre, mais d'un cancer. Et Marcel Keller, lui, est aviateur, donc il continue de faire la guerre. Après la guerre, il retourne aux usines, enfin à leur entreprise qu'ils avaient, leurs ateliers, et avec un ingénieur Raymond Guiguet, reprennent la firme, essaient de redémarrer ça. Raymond Guiguet devient propriétaire en 1922 et relance la marque Cochlear Escoffier comme ils peuvent. Au salon 1922, ils relancent un nouveau modèle qu'on a sur le stand aussi, qu'on peut présenter. Et en 29, ils vendent à Monet Goyon et devient responsable du service course chez Monet Goyon.
D'accord. Mais alors donc ces motos-là, ce sont des V-twins, Escoffier. Hein, donc,
Il y en a très très peu. Il y en a très peu parce que là, au moment où ils ont produit le plus, dans les années 20, en 25, 26, c'est 200 motos peut-être, c'est très très peu. C'est une marque qui ne faisait que des motos de prestige.
Et surtout de la compétition.
Et beaucoup la compétition. Oui, oui, le bas de gamme c'est une moto de course, on va dire.
À l'inverse de Monet Goyon qui était plus.
Monet Goyon c'était beaucoup plus populaire, ça touchait beaucoup plus de monde, oui, oui.
Et hélas, 1959.
Eh bien oui, on est à la fin un peu de l'histoire. La moto en France est un peu dégommée. C'est les 4 chevaux, c'est les 2 chevaux, c'est tout ça qui pousse un peu les motos en dehors. Et bon, c'est vrai qu'on est tombé dans le trou noir au niveau de la moto.
La voiture pas chère, enfin pas trop chère. Les salariés peuvent commencer à s'acheter des voitures.
Une 4 chevaux.
Les 4 chevaux, voilà. Ouais. Et donc la moto, là.
Ah ben, la moto, ça a été la tombée. Alors, les derniers modèles de chez Monégoyon, on en a une sur le stand. Donc, c'est un Pullman. Il y avait le Pullman, la petite 125 carénée, qui était entre le scooter et la moto. Après, il y a la Starlet et il y avait le Castor. C'est les trois derniers modèles de chez Monégoyon. Et puis, la marque a dû fermer en 57. Hein, ça, voilà.
Donc, ces motos sont sur le stand aujourd'hui. Hein.
Voilà.
On peut venir les admirer cet après-midi.
Et bien, voilà. Puis, on invite les gens à venir nous poser des questions. Surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions.
Voilà. Très bien. Jean-Luc, merci d'avoir répondu également aux questions. Régis, Michel, je vais vous les laisser, je vais vous libérer, retourner à votre stand.
Merci encore. Moi, je voulais redire à Jean-Luc qu'il avait un magnifique stand et on aurait bien voulu être à côté d'eux.
Merci beaucoup.
Voilà, bah, l'année prochaine. Allez, musique.
I've been long, long gone. $7 an hour in a chicken suit. $7 an hour in a chicken suit.
Voilà, toujours en direct du 38e salon de la moto de Pécancourt. Je suis avec Bernard Girardot. Bonjour Bernard.
Bonjour les amis, ça va?
Tu présentes une collection de motos de vitesse cette année au salon de Pécancourt. Ce sont des motos qui ont tourné sur le circuit de l'île de Man. Oui. Parce que le thème cette année, c'est le Tourist Trophy.
Voilà, oui, ça nous est venu. Ben, on a terminé l'édition 2016 de Pécancourt en lançant l'idée d'essayer de sortir du monde du Grand Prix pour venir sur celui de la course sur route. Et on a proposé le soir même à Joël et Yvon de lancer une idée, un projet sur la course sur route, sur le Titi. Et ils nous ont fait confiance, ils n'ont pas eu complètement tort. Donc et on a... pour une première fois, je dirais cette année, amener les machines, mais amener aussi des pilotes et un team français qui porte les couleurs de la France au Titi. Alors, qu'est-ce que le Titi?
Voilà. Hein, pour les jeunes qui ne connaissent pas, est-ce que c'est que le Titi?
C'est une question importante. Voilà. Alors, le Titi, en fait, c'est la course mythique, la course qui a forgé, qui a forgé sa propre légende. C'est une course qui se déroule sur un circuit sur l'île de Man, sur un circuit routier. Le tour fait 60 km, donc ça a plus de 100 ans aujourd'hui. Et cette course, elle est extrêmement dangereuse, évidemment, parce qu'on traverse des villages, on monte dans la montagne, on redescend le long de la mer. Et c'est assez compliqué de mémoriser ces 250 virages.
Ça fait 60 km. Hein,
voilà, 60 km. Hein, voilà. Donc il y a eu des années extrêmement dramatiques. Hein, et bon, je ne pense pas que c'est ça qui attire encore aujourd'hui les spectateurs, mais c'est quand même quelque chose d'important dans l'imaginaire. Et cette course, elle a compté à partir de 1949. Elle était au programme du championnat du monde. Des différentes catégories, 125, 250, 350 et 500, jusque dans les années 70 où là, les pilotes ont quand même de grands prix, ont dit attention, il y a quand même trop de risques, 60 km c'est long, voilà, donc il vaut mieux des circuits, et donc à un moment donné ça a basculé et c'est sorti du programme Grand Prix. Mais c'est resté toujours organisé comme une des manches importantes, il n'y a pas de championnat de la course sur route. Mais le Titi est un championnat du monde à lui seul, ouais, en fait. Hein. Donc ils ont cette course, elle vit toujours, elle a une ambiance formidable, elle a une culture. Elle se déroule au mois de juin pour le Senior Titi. Et puis ils ont lancé il y a quelques années une édition plus classique qui est fin août, début septembre. Alors pour la première fois cette année, notre club sera invité à participer aux parades de l'événement classique.
Alors il faut situer où c'est, cette île se situe dans la mer d'Irlande.
Hein, voilà, c'est
là-bas, près de l'Écosse. Hein,
dans le nord-ouest, en dessous de l'Écosse, entre l'Irlande et puis l'Angleterre. Et donc il faut y aller avec un ferry. Donc venez sur notre stand, vous allez voir, il y a l'adresse du site internet du club des supporters du Titi. Donc avec Jean-Michel Prudon, qui est la cheville ouvrière, et grâce à qui on a pu aussi monter cette opération cette année, il faut le remercier. Et Jean-Michel pourra vous donner par son site internet, il a un blog, et toutes les infos. Il faut savoir qu'il faut réserver
le
ferry.
Son site, c'est énorme.
Oui, voilà, non, c'est très très riche, c'est un très très gros boulot. C'est des gens comme ça qui font vivre le mythe. Hein. Voilà. Donc vraiment bien.
Donc oui, parce qu'il n'y a qu'une seule compagnie, hein, c'est la
Steam Packet.
Steam Packet, et il faut réserver sa place au moins 6 mois
avant. Il y a toujours, après, si vous voulez naviguer de nuit, c'est pas un problème.
Oui, voilà, mais voilà. On ne voit pas comme ça.
Non, on n'arrive pas, on ne prend pas le bateau en arrivant au port.
Quoi. Voilà. Et puis vous avez un super écran et vous avez vous avez un film. Une caméra qui était embarquée sur une moto.
Oui.
Alors, et on voit la vitesse où les motos roulent sur il faut dire que ça frôle les murs, les bordures.
Ouais, c'est très impressionnant. C'est un peu presque monstrueux. On se demande comment c'est possible.
Et on voit aussi le public qui est
tout
très,
près,
très près. On sent à mon avis, on doit sentir le souffle des machines.
Oui, tout à fait. Alors ça, cette année, ça a été un peu l'idée, c'était de faire venir les pilotes, parce que c'est eux qui font vivre le mythe. Et donc ces pilotes, on a déjà le type Optimark, qui est un team français, avec ces pilotes, dont Fabrice Miguet, qui est le français le plus rapide de l'histoire du Titi, qui sera là. Nous avons James Hillier, qui est un Anglais, qui lui court beaucoup sur Kawasaki, qui est un des recordman du Tour. Il est membre du club des 132 miles. Ça veut dire qu'il a fait un tour, ils sont une dizaine, à avoir fait un tour à plus de 132 miles, c'est-à-dire 240 km/h de moyenne.
De moyenne.
Voilà,
sur donc ça fait des pointes à 350 km/h.
Voilà, en passant dans des villages.
Et en passant dans les villages.
Avec quelques épingles, ça fait chuter la moyenne assez vite. Et donc, vous avez, et puis nous avons alors une des légendes vivantes, présente aussi sur, on est très très honoré de sa présence, 8 fois champion du monde, 8 fois gagnant du TT, monsieur Phil Reed lui-même, qui sera, qui est la vedette incontestée de ce... Alors cette édition de Pécancourt.
Pour nous qui est. Oui, voilà.
Il est en face de nous.
Et en face de nous.
The Prince of Speed.
Et donc il est en face de nous. Et franchement, nous on est un peu des vieux motards. Mais à l'époque, dans les années 70, on allait sur les circuits. Ouais. Et on ne pouvait pas aborder les pilotes comme Phil Reed ou Giacomo Agosti. C'était pas possible. Bah, donc on tirait des photos de très loin. Et là aujourd'hui, il est avec nous. Voilà. Je laisse. Nicolas faire l'interview.
Oui, donc The Prince of Speed en face de nous, le prince de la vitesse, Phil Reed. Et vendredi, John Surtees nous a quittés. Il était le seul à avoir gagné le championnat du monde en moto, en F1 et en moto. Ouais. Et il était un petit peu plus âgé que Phil Reed. Mais voilà qui illustre la chance qu'on a d'avoir en face de nous l'histoire de la course moto. Un plaisir de vous voir dans une bonne forme. Quel est votre secret? So Friday, John Surtees was the only one to become the motorcycle Formula One world champion. He was a bit older than you, but that shows us how precious you are. You are the history of motorcycling, racing, and it's a pleasure to see you in such a good shape.
Okay,
so,
thank you.
What's your secret?
Well, it's wonderful to be here, and all these motorbikes and all the fans. It's incredible. Incredible show. There's everything for every motorcyclist here. I'm sorry I haven't been here before, but I hope to come again for many more years.
Il est très content d'être ici. Il trouve c'est formidable d'avoir beaucoup de fans ici. Et il apprécie beaucoup la journée. You was worthing beginning the reborn of motorcycling with the rise of Japanese bike fighting British and Italian industry. You run two-stroke and four-stroke engine. You have to race private meeting to earn money. You race in 125, 250 and 350 the same day. Engine reliability was no good. Tire and brakes was poor. And just throw bales to secure the track. And I'm not talking about freedom and girls. So young people can't imagine it. It was a fantastic year, but also very dangerous. So you are a lucky man.
Very lucky, yeah. But we were young, enthusiastic, and we didn't feel it was dangerous. You know, we just enjoyed being together and racing our bikes and preparing them. But we live from hand to mouth. Compared with now, where they pay really good appearance money and
that's
contract
right.
money.
Yeah.
Yeah. Mm. I remember arriving at. Meetings in Austria with just 100 euro in my pocket.
Okay.
But I won the race and was paid and things were good. But this is what I was prepared to do, to sacrifice everything to race.
Okay, that's right, yeah. Donc j'ai demandé si il a connu quand même la renaissance de la moto, l'essor des motos japonaises. Il a piloté des deux temps, des quatre temps. Il a connu l'époque où il fallait faire des courses internationales privées pour gagner sa vie. Il a couru le même jour en 125, en 250, en 350. Les moteurs cassés à l'époque, les freins n'avaient rien à voir, la sécurité c'était des ballots de paille sur les pistes. Et c'était des années fantastiques mais dangereuses. Et je lui ai demandé, alors j'ai eu de la chance. Il m'a dit oui, j'ai eu de la chance. Et à l'époque on ne se rendait pas compte. On avait juste le plaisir de courir. Et il est allé en Autriche rouler, il avait juste 100 livres en poche, rien du tout. Et il roulait comme ça, et c'était juste le plaisir de rouler, on ne se posait pas ces questions-là. Une autre époque.
C'était l'époque du Continental Circus, en fait. Hein.
Exactement,
en fait, les pilotes partaient d'un circuit à l'autre, et ils avaient besoin des primes de départ pour pouvoir continuer le championnat.
C'était comme ça qu'on gagnait sa vie.
Ouais, c'était comme ça que ça marchait.
Donc Phil Reed, je vous ai vu pour la première fois au Grand Prix de Belgique à Spa. Et en préparant l'interview, j'ai retrouvé mes photos et c'était incroyable. La MV avait des ailerons à l'avant en 1974. Est-ce que vous vous souvenez de ça? I first saw you on the Belgium GP. And so, to prepare the interview, I have a look to the old photo I took. And incredible! Your MV has fairing wings in the 1974. Do you remember that?
I remember that well, yeah. I did one lap at Francorchamps and said, take those wings off. Because we didn't have enough horsepower.
Okay.
To keep the front wheel on the ground.
Okay.
But it was a design exercise by the Turin University.
It was awful.
No, it looked fantastic, but it didn't help.
Okay. Donc effectivement, il avait des ailerons sur son carénage. Il a testé, mais il n'aimait pas du tout et ça servait à rien du tout. Mais comme quoi, c'est pas nouveau, l'histoire est un recommencement.
Ouais, c'est un éternel recommencement.
Ne fait que bégayer l'histoire.
Lorsque vous regardez le MotoGP à la télé et que vous voyez la bagarre entre Lorenzo et Marquez et Rossi, vous repensez aux bagarres avec Agostini, le freinage qui a poussé un petit peu Landivori, la polémique pour le titre en 2,50 avec Bill Ivy. Même problème, la difficulté de réguler son agressivité. When you watch MotoGP on TV and you see Rossi, Lorenzo, Marquez fighting, don't you feel your fight with Agostini, the block pass on Landivori, or the mess with your teammate Bill Ivy, Little Bill, for the 250 title? Same problem.
Ça va devenir...
The difficulty of the level of needed aggressivity to win and the fair play rules.
That's a long question.
That's
but
right.
You know, I watch the Moto Grand Prix now and I have every admiration for the skill and courage of the top riders. I fight with Agostini, but we are on similar bikes, similar tires, and it's very exciting. And but the problem with Bill Ivy was another question.
I think same as Rossi. When we are on, you don't think anything else. So you are on.
You're on to win.
That's right. You are in win mode. That's right. Yeah.
You cannot ride a team order.
That's right. So il m'a répondu que effectivement c'est dur de faire la part entre l'agressivité qu'on a besoin pour gagner et puis les règles de bon usage. Mais effectivement, lorsqu'on est en mode de gagner, on est seul sur la terre, on n'est plus rien et on pense plus à rien. Et on peut faire des choses qui sont un petit peu au-delà.
D'accord.
Et voilà. Victory without... Alors, je vais lui poser la question qu'en fait, Ago et Phil Reed se sont aidés mutuellement. En fait, Ago ne serait pas au niveau où il est sans Phil Reed et vice-versa. So victory without risk bring triumph without glory. Sorry for the noise. Don't you think Agostini needs Phil Reed to be better, to be a winner? And so do you.
Yeah, I think joining the MV Agusta team to help Agostini, which I did in the first year, to help him win the 350, to keep the Yamahas behind, Saarinen and Tepi Lanzavori. Yeah, I helped him. But then again, I felt I was faster on the 500 three-cylinder MV in the next year, and I beat him because, you know, I was determined, obviously, to win the championship. But obviously Giacomo Agostini was upset and then left for Yamaha, which was good because it made a real fight together with two factories.
Yeah,
two factories. And it brought alive the World Championship Series. We fought together.
That's right, yeah. Donc il a dit que effectivement ils se sont fait la courte échelle tous les deux. Agostini, il avait la Yamaha qui était plus facile, et lui, il a été le dernier champion du monde à gagner sur MV, un 4 temps. Donc une moto qui était plus compliquée pour l'évolution. Et c'est vrai que c'était... ça, en fait, il y a peu de concurrence à l'époque et que la concurrence qu'ils ont eue entre eux, elle a fait que c'est terrible les conditions. Hein.
On est en plein. On fait
de la radio et en même temps il y a des micros de tous les côtés, c'est infernal. On va essayer de continuer. Just to say, dans les années 60 et 70, les Anglais étaient au top avec Mike Hallwood, Bill Ivey, Phil Wood, of course, and Chas Montsemer, Barry Sheen. Et maintenant il y a la nouvelle génération, il y a Carl Crutchlow, il y a Scott Redding, Danny Kent, et en Superbike, World Superbike, il y a Ree, il y a Davis, Sykes, et so it should be fine for you to see England is still there. Most cycling.
Yeah, I think they need factory bikes. You know, we haven't got a British rider on a factory bike, semi-factory.
That's right.
And it would be lovely to see a British rider win the championship, but I don't think this is going to happen. Maybe the odd Grand Prix like Carl Crutchlow did last year, but I think there are too many Spanish and Italian riders.
That's right, yeah. Donc il est content de voir qu'effectivement les Anglaises reviennent au premier plan, mais quelque chose va être encore compliqué pour lui de prétendre à la victoire.
Well, I think this year it's going to be really exciting. I think we're now with Maverick Vinales joining Valentino on the Yamaha factory team. I think Maverick and Marquez will be fighting for the championship.
Okay.
And my money would be on Maverick.
Il m'a devancé, donc la question que j'allais lui poser, c'était quel était son pronostic pour la saison prochaine.
Ah oui, d'accord. Oui.
Et il pense que Maverick Vinales et puis Marquez vont se battre pour la victoire et que Rossi va encore avoir du mal à rejoindre ce trio.
Anyway,
on va poser une dernière question.
So, last question, just about the Brexit. What do you think of it?
Well, that's very political, but I believe it's correct England to come out, to control their own borders and control their own laws and to spread our industry around the world. But I think it will be good, it will wake Europe up, wake Brussels up to clean up their act, to save money and invest in their own countries.
Okay. Il n'est pas contre en fait le Brexit. Hein.
Ah ouais.
Il n'est pas contre. Ah ouais. Il trouve que l'Angleterre, si elle se recentre, ben, l'argent ira à l'Angleterre.
Ah d'accord.
Je suis étonné parce que c'est comme gain international.
Bah ouais, ouais, voilà. Bien, ouais. Ouais. Très bien. Bon.
So thanks a lot. Thanks very much indeed for sharing your patience with us. It was very pleased. Yes, thank
well,
you.
Just thank you for the spirit of speed, inviting me here and. Bringing together some of the most famous historic classic racing bikes. I mean, it's brilliant.
Thank you very much.
With Bernard, we've got great admiration and thanks to him, the president of Spirit of Speed.
Okay, thank
you. The passion for road racing bikes.
Yeah, thank you very much. Nice moment, yeah. Okay. Great.
First beer, light up my cigarette. Hope I don't get lost out here, 'cause I might not make it back. Working on the fence line, sunburn up to my neck. $5 an hour. Never said the bills pay. This ain't no life for you to live. Don't get stuck in ass flesh. All is left to do but die.
know. Got a little plant you see. Gonna let that sucker grow. Ain't no life for you left. But don't get stuck in this place. All this left to do but die. None of your life gone away. Yeah. It's gone away. So I drive around town. Think the cops they will know what I got behind my house. I make my money grow. Say no life for you left. Don't get stuck in this place. All this left to do but die.
Voilà, toujours en direct, et ça s'entend, en direct du salon du 38e salon de la moto de Pécancourt. Je suis avec les pilotes français du Tourist Trophy. Forcément, on ne peut pas faire une exposition, enfin montrer le Tourist Trophy, sans parler des pilotes français qui participent à cette course. Fabrice, bonjour.
Oui,
Fabrice
bonjour.
Biguet, donc, et Xavier Denis.
Bonjour.
Donc, on parlait tout à l'heure avec Bernard et puis Phil Reed, hein, de la course du Tourist Trophy, hein, c'est 60 km à fond, hein, pour gagner, de toute façon, il faut toujours à fond. Et dites-nous un petit peu comment on fait pour apprendre le circuit, parce que là, c'est... Allez, Fabrice.
Bah oui, alors déjà maintenant, c'est vrai que c'est impressionnant, parce que c'est 60 km avec une moyenne, maintenant, les meilleurs tournent à peu près à 212 alors, ou 213, ouais. 213 km/h chrono.
Ouais, chrono.
Donc ça fait un 220-230 compteur, quoi, de moyenne, hein, chrono. Et donc c'est impressionnant. Mais par contre, bon, c'est un circuit qui comporte à peu près 270 virages, un petit peu moins, et on arrive quand même facilement au bout de 2-3 ans à tous les retenir, bien sûr, et aussi à connaître la particularité du circuit, qui est aussi bien connaître toutes les bosses et pas se faire surprendre par un guidonnage ou une bosse, voilà.
Il y a le fameux pont là, le ballot bridge.
Oui, ballot bridge, alors ballot bridge...
On décolle là.
Ouais, mais c'est très lent, c'est très lent.
C'est très lent.
Il y a des sauts comme Crosby ou Balacraine. Balacraille qui sont beaucoup plus rapides, donc là c'est fond de 6, c'est beaucoup plus impressionnant. Ballot, bon, c'est très lent, donc c'est pas du tout la même sensation. Après, comme dit Fabrice, les virages sont assez faciles à mémoriser. Après, c'est plutôt tout ce qui est relief qui peut poser des problèmes. Et également, on essaie le soir, le clair-obscur avec le soleil couchant qui est très bas sur l'horizon. Ouais. Et voilà, qui est souvent éblouissant quand on l'a dans la figure. Donc,
alors, comment ça se fait qu'on participe à cette course? C'est quand même dangereux, hein, parce qu'on voit les pilotes au ras des murets. C'est quand même... Qu'est-ce qui fait qu'on participe
Bah, c'est, je pense, le défi que ça représente. Après,
c'est plus qu'un défi. Quelquefois, c'est presque de la conscience.
Non, justement, avec Fabrice, on a un peu le même regard là-dessus. C'est que beaucoup de gens pensent que les pilotes de course sur route sont fous, alors que paradoxalement, ils tombent très peu. Donc, c'est bien un signe de maîtrise de ce qui est fait, et parce qu'il y a une grosse conscience du risque. Contrairement à ce qu'on voit sur piste, en Grand Prix, en Superbike, donc, où les gens tombent beaucoup parce qu'ils peuvent se le permettre.
D'accord. Vous êtes dans quelle catégorie? Parce qu'il y a beaucoup de catégories aussi à l'Île-de-Man. Hein.
Alors oui, donc on est en catégorie Superbike, avec une 1000, en Superbike, Superstock, et dans la catégorie Senior, qu'ils appellent ça. Alors c'est une classe où on peut rouler en 600 et avec des machines un peu prototype aussi. Ouais.
Xavier aussi?
Oui, alors comme Fabrice, je roule en 1000, donc dans les trois courses 1000, et je roule également dans les deux courses 600 et la course Super Twin, donc je fais toutes les courses solo actuellement.
Alors c'est un budget aussi, parce qu'il faut se rendre là-bas sur les domaines, c'est pas tout près là. Hein.
Oui, alors faut savoir que sur les 15 jours, donc une semaine d'essai et une semaine de course, on fait à peu près, pour moi je fais trois catégories, je fais à peu près 2000 km de roulage. Hein.
D'accord, 2000 km.
Ouais, voilà, donc c'est les trois plus gros postes, c'est les déplacements, pneus et l'essence pour la moto, parce qu'on en brûle beaucoup comparativement à la piste.
Je suppose que vous n'êtes pas seul, vous avez le mécanicien avec vous, vous avez l'intendance, le pistolet, tout ça.
Oui, voilà, il faut une certaine intendance parce qu'on reste 15 jours et on fait quand même 2000 km de course. Donc évidemment, il faut réviser les motos. Puis comme c'est en course sur route aussi, les motos ont tendance, la boulonnerie à bien à se desserrer un petit peu. Donc bien vérifier que tout est OK avant de partir.
Bon, très bien, là vous partez là, au mois de juin.
Oui, on remet ça avec Xavier dans le même team. D'accord, le team petit marque, voilà.
Bah écoutez, je vous souhaite bonne chance, hein, et puis faites attention quand même à vous.
Merci
à vous. On espère vous retrouver l'année prochaine.
À bientôt, pas de soucis.
Au micro de Radio Campus.
Avec plaisir, avec plaisir.
À bientôt.
Voilà, on va parler exposition moto, on va parler moto américaine avec Anthony Dwins. Bonjour Anthony.
Salut l'ami.
Et Jean-Philippe Buinon.
Oui.
Bonjour, alors Jean-Philippe, présente-toi, tu fais partie de cette marque américaine qui s'appelle Indian.
Exactement, donc je travaille pour le groupe Polaris et donc je suis manager commercial pour toute la partie nord de la France. C'est-à-dire que le nord commence à Nantes et s'arrête à Grenoble.
D'accord.
Voilà.
Donc là, vous êtes venu avec un énorme camion qui est juste à l'entrée du salon.
Exactement. Donc on a un camion qui est un camion américain et une longueur de semis de 22 mètres carrés, 22 mètres de long. Et donc avec l'ensemble de la gamme.
J'ai toujours rêvé de conduire un camion comme ça, enfin l'essayer au moins. Tu crois que je pourrais tout à l'heure?
Oui, tout à l'heure, monte dans la cabine.
Voilà, donc si on parle Indian, on pourrait peut-être parler aussi de Victory, qui a disparu il y a quelques mois, là, et qui faisait partie du groupe Polaris.
Exactement, donc l'arrêt de la marque Victory est apparu donc, le 9 janvier dernier pour des questions tout à fait stratégiques d'entreprise par le groupe Polaris.
Oui. Et donc, les gens qui ont acheté des Victory vont pouvoir encore les faire réparer chez les concessionnaires Indian ou Victory. Et les pièces, elles vont durer jusqu'à combien de temps?
Absolument. C'est-à-dire que notre première préoccupation, c'était vraiment d'accompagner nos concessionnaires qui sont nos premiers clients et aussi d'accompagner aussi nos clients finaux. C'est-à-dire qu'on veut absolument maintenir un niveau de notoriété autour de la marque, mais aussi des pièces détachées, de la garantie, c'est-à-dire qu'on maintient tout notre savoir sur l'après-vente.
Qu'est-ce qui a décidé Polaris d'arrêter Victory? Parce que moi j'ai essayé les deux, hein. J'ai essayé une Victory et j'ai essayé une Indian. Et sincèrement, je vais dire, je trouvais que la Victory, le moteur, c'était fabuleux. Enfin, on est obligé de couper parce que quand est-ce que ça va s'arrêter quoi?
Ça ne s'arrête jamais avec une Victory, il faut le savoir.
Non, c'était fabuleux.
C'est-à-dire qu'il faut remonter un petit peu dans le temps. C'est-à-dire qu'en 1996, Polaris US décide de venir en fait vendre des véhicules sur la route. C'est-à-dire commencer à s'émanciper en dehors de l'off-road. Et en venant sur la route, ils veulent racheter donc Indian, ce qui n'a pas été le cas en 1996. Ils ont essayé aussi de racheter une marque bien connue des US, Excelsior. Et ils étaient aussi en acquisition sur Norton. Impossible. Oui. Donc ils ont donc décidé de construire leur propre marque donc en Victory. L'opportunité de racheter Indian en 2011 fait que 27 mois plus tard, on se retrouve avec trois nouvelles machines. Et donc avec, à la fois en concurrence, mais on ne s'adresse pas au même public sur une Indian.
Ce n'est pas le même prix non plus.
Ce n'est pas les mêmes prix. Donc un client qui achète une moto chez Victory, c'est vraiment, vraiment très différent d'une Indian. Et donc malgré les investissements dans la compétition, la Pikes Peak, le TT, donc avec la moto électrique, malgré tous ces investissements commerciaux, ça n'a pas abouti pour Victory. Et donc Victory n'a pas résisté à Indian. Donc en fin 2016, on avait vendu 20 000 Victory pour 50 000 Indian.
Ah oui.
Et donc l'annonce du 9 janvier était quasiment inévitable.
Ah, c'est le 9 janvier.
9 janvier, tout le monde s'en rappellera. Et dans le réseau et chez moi, je suis marqué.
Le 9 janvier.
Et donc une semaine après l'annonce, tout le personnel, que ça soit au développement réseau, que ça soit au développement des produits, de la production, est devenu du personnel Indian. Et donc, sachez que d'ici un an, vont accélérer tous les programmes de développement parce qu'on ne va pas s'arrêter à la gamme actuelle. Et donc, on va arriver avec toute une belle gamme.
Tiens, on est en compagnie de Nicolas Chauvin. Bonjour, Nicolas.
Oui, bonjour.
Qu'est-ce que tu penses des Indian?
Ah ben moi, je les trouve fabuleuses. Au niveau de finition, elles sont quand même...
Alors voilà, la finition,
en fait,
elles ont
une vraie personnalité. Et bon, j'ai jamais roulé. J'en essaierai bien une. Et moi, évidemment, en tant que customiseur, je vois la base. Hein, évidemment.
Bien sûr, ouais.
Alors, ça peut être une base rationnelle, évidemment, comme une œuvre d'art. Pourquoi pas? Parce que c'est un matériau. La moto est un matériau fabuleux pour faire des œuvres d'art.
Par contre, les Victory, c'était la carrosserie des Victory, c'était quelque chose d'assez.
Oui, c'était particulier.
Aussi, hein.
Mais bon, il y a une différence.
Bon,
déjà Victory, c'est fini, donc voilà.
Voilà bon,
Indian, elles ont. Il y a deux marques, hein, en gros, on sait, on va pas citer l'autre, mais voilà, Indian a un héritage, un patrimoine historique, culturel, évident, qui, je trouve que ça manque un peu de customisation, de, toujours, comme je viens de dire, hein, on peut faire des œuvres d'art avec.
C'est, voilà, c'est ça, c'est ça, une bonne base.
Déjà, ils ont une carrosserie assez particulière, ils sont très typés, et voilà, ça peut...
D'accord, très bien. Anthony, quelque chose à rajouter?
Ben non,
t'as l'air fatigué, Anthony.
Je pense que Jean-Philippe a saisi concernant Polaris et je pense que ce que vient de dire Nicolas, c'est exactement voilà. Ça. Après,
on va conclure cette conversation. Sachez que si vous venez cet après-midi au salon, à l'entrée principale, on voit ce grand camion là qui est juste là, et puis on peut pas essayer les motos.
C'était compliqué.
C'est compliqué.
Mais on fait les portes ouvertes 21-22-23 avril.
Ah, c'est bien. Il l'a posé. Ça c'est dit. Bon voilà, on passe à un petit morceau musique et on va se retrouver avec Nicolas Chauvin et Daniel Torel.
Oui, et Nico.
Et Nico aussi. Et Nico, j'ai oublié Nico.
Merci. Voilà.
Toujours en direct du 38e salon de la moto de Pécancourt. Je suis en compagnie de Daniel Torel. Daniel, bonjour.
Salut la miche.
Daniel Torel que vous connaissez parce qu'il intervient tous les débuts de mois donc dans l'émission. Tu fais encore partie de l'AFBF, Daniel, ou c'est la Custom Culture, je ne sais plus.
Alors écoute, je répète ce qu'on s'est dit. On a dépassé largement le stade de l'AFBF pour travailler au niveau de la Custom Culture. Puisque c'est beaucoup plus large que la moto. Et d'ailleurs, tu verras tout à l'heure sur l'intervention de Nicolas qui pourra parler aussi un tout petit mot de la transformation des véhicules modifiés.
Les gens qui sont avec toi, il y a deux Nicolas, ouais. Donc l'assurance.
L'assurance, il y a Nicolas et les motos modifiées. Et Monsieur Nicolas Chauvin,
donc qui ramène toutes ces superbes machines. Hein,
le maître. Ouais. Master.
Oula,
les molos.
Non, tu sais, douter de son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres.
Ok. Alors Nicolas, écoute, cette année, j'ai vu beaucoup de choses nouvelles par rapport à l'année dernière. Et j'ai vu un coin qui m'a fait terriblement plaisir, c'est le côté un peu 17. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi?
Oui, bah en fait, on fait venir... Il faut savoir que c'est un show qui est très éclectique dans la custom culture. Hein. Il y a beaucoup de tendances. Et là, il y a une bande de potes qui roulent qu'avec des vieilles motos chopperisées à la old school. Et ils ont fait un bivouac. Ils ont recréé un petit peu l'ambiance 70s, liberté, légère. On dort sous la moto. Donc ça, c'est assez sympa. À côté de ça, il y a les choppers, il y a les old school, il y a les perfos, il y a le travail de la matière, les motos tout en métal. Et bon... Comme on sait, c'est un art.
Tout à fait. Alors, Nico, moi, cette année, j'ai vu aussi des choses assez étonnantes au niveau des peintures. Je sais que tu es très, 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 très sensible, comme toi, excellent peintre. On a vu aussi une peinture traitée qui est assez étonnante. On l'a vu ensemble, qui était aussi à côté d'un véhicule qui était terriblement travaillé au niveau des métaux. Est-ce que tu peux en parler un tout petit peu ?
Oui, bah, y a un Anglais, un habitué des podiums en Angleterre et partout en Europe, et notamment à Pécancourt, qui nous a ramené encore une moto avec une machine assez sobre, mais une peinture fabuleuse avec des paillettes, pure, extrêmement bien réalisée et pure custom culture.
Ok. Donc, c'est intéressant, c'est que Nico, toi, en tant qu'intervenant dans le cadre de ton assurance et aussi pourfendeur des lois qui veulent entraver notre mode de vie qui est la custom culture, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de l'action qui était menée au niveau assurance et au niveau de la défense des véhicules modifiés ?
Oui, alors exactement. Donc d'abord, nous, on a l'expertise à la Fédération des Bikers de France sur tout ce qui est véhicules modifiés. On s'est rendu compte que depuis quelques années, on travaille sur ce projet et qu'il y avait une espèce de problème sur le fait que les gens qui ont des véhicules modifiés, je parle uniquement des modifications sur l'embellissement, avaient des soucis pour se faire assurer. Donc nous, on a développé une assurance spécifique créée par les bikers pour les bikers. D'ailleurs, on voit que derrière, ça fait quelques émules de gens qui viennent nous copier gentiment. Et alors, je voudrais juste parler des points forts de cette assurance. C'est d'abord la prise en compte de tous les accessoires. Je dis bien tous les accessoires, à condition que ce soit des accessoires d'embellissement, puisque je rappelle qu'aujourd'hui, un assureur ne peut pas se substituer au législateur. Donc, c'est tous les assurants, tous les accessoires stock, non-stock, qui ont été montés avant, après, jusqu'à 10 000 euros. On a un point fort dans cette assurance que pratiquement aucune assurance n'a, c'est le rapatriement du véhicule où vous voulez. On a tous eu des soucis, on était en panne à 500 km de chez nous, où le type chez qui on laissait la moto nous disait « Ah, si tu veux récupérer ta bécane, c'est 10 000 euros ». Voilà. On a donc dédié, on a une assistance dédiée, et je donne juste l'adresse de cette assurance, c'est assurancedesbikers.fr. Voilà, donc si vous voulez assurer votre moto modifiée et prendre en charge tous les accessoires, venez chez nous, l'assurance des bikers pour les bikers.
Ok, merci Nico. Alors, important effectivement pour tous les gens qui ont, comme nous, qui roulons pas stock, parce que je connais quasiment aucune moto stock. Voilà. Nico, pour terminer un tout petit peu sur ton travail, tu es le représentant quand même de l'excellence au niveau de la custom culture et du custom depuis de nombreuses années. Comment tu expliques que toi, qu'en France, il y a des gens qui sont reconnus sur le monde entier et qu'en France, on ne peut pas utiliser nos véhicules customisés ?
Bah écoute, ta question elle est primordiale, sauf que ça m'étonnerait que j'ai assez de temps pour y répondre parce que c'est un vaste débat.
Ouais.
En gros, en France, mais bon, voilà, on va parler de la France, on serre les boulons alors qu'en fait, ils n'ont pas encore compris que c'était des motos qui n'étaient pas accidentogènes, beaucoup moins. Le plaisir, on ne l'a pas du tout dans la vitesse et dans un comportement dangereux. Les motos, c'est pas n'importe quoi, on sait très bien, on n'est pas idiot, on sait très bien ce qu'on fait. Moi, je suis d'accord qu'il faille l'encadrer, mais qu'on puisse avoir des possibilités. Et là, on écrase complètement cette culture, on écrase complètement... Il faut que les gens soient heureux à un moment, à force de serrer les boulons. C'est pas possible, c'est plus vivable, on ne peut plus rien faire. Ça crée, il y a des emplois, il ne faut pas oublier qu'il y a des emplois, et ces emplois sont menacés. Ça va en cascade. Et donc, je pense qu'il faut vraiment discuter sérieusement à ce niveau-là.
Je rajoute juste quelque chose, tu as raison de ce que tu dis. La custom culture, elle est florissante partout, en Europe, génératrice d'emplois et pas en France. Donc on a un gros problème.
C'est une alternative. C'est une alternative à rouler, rouler vite.
C'est important encore une fois que vous intervenez parce qu'encore une fois vous êtes les représentants de cette culture qui est une vraie culture. L'avantage avec Kikinkou, c'est qu'on donne la parole à toutes les minorités, les gens qu'on ne voit pas, les gens qui bossent dans l'ombre. Et c'est grâce justement à ce genre de liberté qu'on a encore la capacité de s'exprimer.
Bravo,
merci, Daniel. Bravo.
Voilà, camarade Lamiche.
Allez, on passe un petit morceau de musique parce que là, on a un gros morceau qui nous attend.
Ok. Juste
après, merde, c'est moche, ils sont 160.
How does it feel to have somebody constantly lying to you? Year after year that you came to finally find out the truth. I would like to know, how did you get to string me out for so long? When I knew, my mama told me right from wrong. That you love holding shit back from you.
I would like to know, what would you do when you found out the truth? Year after year, waiting away day after day at a time. Now that I know, how could I be so blind?
I can't believe I've been deceived. I can't believe I've been deceived. I didn't know what to believe. So I wind up being deceived. Now I know how it feels. The feeling is so unreal.
Là, toujours en... C'est en direct du 38e salon de la moto de Pécancourt. Je suis avec Chantal. Bonjour Chantal.
Bonjour.
Alors Boule.
Bonjour.
Boule et...
Jean-Baptiste.
Little. Alors, les gaillards, là, c'est les rats. Alors voilà, parce qu'il y a une exposition de rats. Alors expliquez un peu aux motards, qui, les gens qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un rat. Alors dites-nous un peu ce que c'est.
Oh, la deuxième année quand même. Vous
non, non, mais il y a des gens qui sont nés.
L'année dernière.
Alors,
donc un rat, c'est une moto qui roule, qui vieillit avec le propriétaire, qui roule été comme hiver.
Et alors, non, l'année dernière, on avait dit que hein, c'est finalement, on peut lire l'histoire du propriétaire.
Ouais, c'est exactement hein, ça. C'est ça. Elle évolue en même temps que le propriétaire.
Alors, on y trouve de tout hein, sur ces motos. Hein.
Ah bah, tout.
Des rats, vous avez écrasé un rat, donc vous vous arrêtez. Vous
par
le...
exemple, par exemple, en voilà, souvenir.
Un enfant aussi.
Tiens, celui-là, il vient des Ardennes.
voilà, ou je sais pas, moi, une taupe ou... Bref, voilà.
Tout et n'importe quoi.
Tout et n'importe quoi.
Les restes d'un barbecue aussi.
Ça arrive.
Voilà, une petite saucisse qui est pâtée mangée. On a fait trois manger sur aujourd'hui. Donc
après l'enterrement de mamie aussi.
Voilà, donc c'est ça. Vous avez combien de machines là, d'exposer il y a au moins une dizaine, hein, non
ouais, une dizaine.
Une huit motos et deux sidecars.
Alors ça roule, toutes ces machines-là,
ouais.
Ça roule
ouais, on est venu en roulant, ouais.
Tout le monde est venu par là.
Vous faites des balades vous allez souvent dans des concentrations, des rassemblements
ouais. On peut nous voir
vous allez
un
où
peu partout.
Vous allez où
un peu partout.
Vous êtes de où, là sur l'île?
Il y a Lille. Amiens.
Amiens, il y a des mecs de la Somme, de l'Oise, il y a des mecs de Béthune, moi je suis de Béthune. Ouais.
Donc ça fait la deuxième année, ça vous plaît de venir ici au salon de Pécancourt?
Oh bah c'est un régal.
Il y a un décalage entre. Alors il y a un décalage entre Nicolas Chauvin qui présente du chrome, mais alors voilà. Et puis vous, hein. Vous avez vu, hein. Quel avantage vous n'avez pas à nettoyer comme ça?
Ah voilà. Non, on ne nettoie pas. On roule tous les jours, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, donc on ne va pas commencer à nettoyer.
Vous avez un projet aujourd'hui, vous êtes venu avec un projet. Ouais. Alors racontez-nous un peu ce que vous allez faire.
Alors cette année...
Ce que vous avez commencé déjà à faire hier.
Voilà, on voulait avoir un stand animé, pas un stand statique.
Innover aussi.
Innover un petit peu. Donc on a renouvelé, ouais, tout le cheptel de rats a été renouvelé. Il n'y a pas un rat qui est venu l'année dernière qui est revenu cette année.
C'est un peu comme les moutons.
C'est ça.
Ça pousse.
C'est des grosses bestioles.
D'accord.
Et cette année, on s'est lancé un défi. On voulait monter une bécane de A à Z en deux jours sur le salon de Pécancourt.
Et la démarrer.
D'ailleurs, voilà, j'invite les visiteurs du salon de Pécancourt à venir nous rejoindre sur notre stand à 15h. Pour un démarrage normalement ouais. Si tout se passe bien, alors, un démarrage alors, de la moto qu'on va remonter.
Attention, j'ai vu le réservoir, c'est une bobonne
extracteur.
C'est ça le réservoir. Ça. Ouais. Moi je crois que c'était du nitro-oxyde, tu sais, un truc pour du gaz. Pour,
non, un nitro. Non, on roule pas trop vite. C'est pas pour nous ça. On roule pas au réservoir.
Vous avez triché quand même parce que vous aviez des pièces avec vous quand même.
Ah bon, on la prépare à l'avance.
Vous avez pas,
on pouvait pas souder sur place.
On n'a pas le droit de souder sur place, ouais. Ce qui est dommage. D'ailleurs, si l'année prochaine on pouvait souder et tronçonner sur place, ce serait impeccable.
Et puis coller aussi.
Et coller, ça, on n'attend pas l'autorisation. Ouais,
voilà. Bon, alors, on va conclure. Donc, rendez-vous 15h hein, pour 15 faire heures. Péter cette bécane hein, qui a été montée.
Et peut-être une surprise après, on ne sait
donc,
pas.
Donc, c'est l'exposition de rats hein, avec Chantal, Boule et Bill.
Et Jean-Baptiste.
Et Little.
Et vous êtes une paire, vous êtes trois là aujourd'hui, mais voilà, vous êtes au moins 5-6.
Non, on est une quinzaine. Sur le stand, prêt à vous accueillir, à rigoler, à boire un coup.
Okay, alors
et peut-être une surprise.
Il y a des t-shirts aussi avant.
Et peut-être une surprise.
Petite surprise, on verra.
Alors, on va le dire. Vous allez essayer de mettre votre machine que vous avez remontée tout le week-end sur la scène.
Jusque là-bas.
Vous allez la rouler jusqu'à la scène de concert. Et quand les ventes passent, vont commencer à jouer, vous allez.
Ou après.
Vous allez mettre sur la scène. Bah, voilà. Écoutez, bonne chance, hein, vous pouvez toujours peut-être aller voir le président.
Ça c'est rat.
On va essayer.
Voilà. Je vais vous demander de, de laisser la place parce qu'on va voir Cédric Fievé qui participe au championnat belge et hollandais. Super bac. Cédric, peux-tu prendre de la place?
Merci, bon, à vous.
On va prendre du son tout à l'heure, on va voir si ça démarre.
À l'année prochaine.
Si ça démarre. Voilà, on va prendre Cédric. Et voilà, Cédric, tu es accompagné peut-être, non? Non.
Bonjour à tous.
Ouais. Bonjour Cédric.
Ah, ils sont sympas les rats.
Ils sont sympas, oui. Avec eux. Hein.
Ah, ils sont terribles.
T'as vu un peu ce qu'ils ont fait là?
Ah bah écoute, forcément, moi je suis dans le stand du motoclub, donc j'ai pas tout suivi, mais ils m'impressionnent.
Bon, alors toi tu as un stand aussi, parce que tu fais partie du motoclub de Pécancourt. Ta licence est au motoclub de Pécancourt.
Voilà,
et là tu arbores une super casquette avec un grand P, motoclub de Pécancourt.
Fièrement.
Je répète.
Fièrement. Voilà. Donc on essaie de représenter un petit peu le club de Pécancourt. Donc moi pour ma part c'est pour les pistards. Je les encadre, j'essaie de les encadrer, de les aider. Et puis donc là aujourd'hui le but du jeu c'est de faire comprendre aux gens, bah voilà, nous on est des pistards, on fait partie du club et donc on a un stand, que ça soit le cross ou les pistards, bah voilà, on est là et n'hésitez pas à venir sur le stand.
Oui, alors motoclub de Pécancourt c'est plutôt motocross.
Voilà, ils adorent le motocross.
Enduro, course de sable. Hein,
voilà, c'est ça. Donc ils sont très attenants donc moto de cross, mais donc à un moment donné, bah voilà, ils veulent faire comprendre aux gens qu'il y a des pistards aussi. Et donc bon, le premier truc, c'est qu'on va offrir des DVD cet après-midi, des DVD du salon, du 29e salon, du 30e salon. Donc n'hésitez pas à venir sur le stand du motoclub de Pécancourt. Il y aura aussi une séance de dédicace de moi et donc aussi de Vincent Falcon qui sera là. Donc lui, il fait le championnat d'Europe donc, en Moto 3. Donc séance de dédicace à 13h30. Donc venez nombreux, on sera présents.
Ouais.
Et donc voilà, donc je pense que j'ai fait le tour au niveau du
salon.
Et on
rappelle aussi aux auditeurs que tu participes donc au SBK Belgium Hollande.
Voilà, donc pour ma part, je fais le championnat de Superbike Belgique et Hollandais. Donc je fais quelques manches en IDM. Donc entre autres, on fait Spa-Francorchamps, Assen, Auchersleben. Et donc la première course, c'est Croix-en-Ternois le 15 et 16 avril. Donc venez nombreux, c'est dans la région.
Voilà,
je vous donne rendez-vous là.
Voilà, c'est une moto qui démarre. Voilà.
Ouais,
c'est des rats.
Ouais, c'est cool, c'est cool. Ouais, ils sont bien.
On a tout dit, Cédric.
Bah écoute, j'essaie de faire le tour.
Cet après-midi, aux auditeurs.
Très succinct, mais forcément, voilà. Venez cet après-midi, 13h30, séance de dédicace. Et après, moi, derrière ça, il y a ma course le 15-16.
Impeccable. On rajoute quelque chose, Locke?
Bah oui, justement, dans le calendrier Kick un coup que vous trouvez dans tous les lieux fréquentés par les motards, vous trouverez que le 18 et le 19 mars, vous avez le salon Vintage Motor Show à Wascal, où on a d'ailleurs on a un stand et il y a de très très belles machines qui sont exposées chaque année, hein, et vous verrez cette année notamment. Donc il y a les amis de la moto, il y a aussi la confrérie des vieux clous, il y a Kick un coup, etc.
Et on peut expliquer ce qu'on fait aujourd'hui aussi? On fait signer une pétition pour le fameux musée Maurice Chapleur.
Voilà, hein. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc c'est la mairie d'Amnéville en fait qui veut vendre la collection Chapleur, et nous on veut pas, on veut que ça reste en France parce que ça fait partie de notre patrimoine national. Et donc sur notre stand, vous avez à la fois un diaporama qui explique la collection Chapleur, son histoire, etc. Et on fait signer une pétition qu'on peut faire aussi via internet. N'hésitez pas à aller sur notre site internet, vous avez toutes les informations qui sont disponibles. Je voudrais aussi dire, dans le cadre du calendrier Kick un coup, qu'il y a aussi un challenge casque d'or organisé par notre ami Monsieur Moto du Pas-de-Calais.
Il y a Adrien Van Beveren qui vient juste
d'arriver.
Il y a du beau monde sur ta radio.
Il y a des vedettes. Adrien,
bonjour.
Bonjour.
Ça va bien?
Salut,
il reste une minute. Et en une minute, tout ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut poser comme question
à un champion?
Un champion.
Ouais, je sais pas, il y en a plein des questions. Mais déjà, je suis content d'être avec vous ici à Pécancourt.
Cette deuxième place, allez, on va au Touquet, pas trop déçu?
Déçu, mais c'est normal, quand on travaille pour gagner, c'est toujours difficile de pas gagner, de faire deuxième. Et pour moi, aujourd'hui, après avoir gagné trois fois, faire deuxième, c'est un peu comme une forme d'échec. Même si ça n'en est pas vraiment puisque j'ai été
le podium.
Après un Paris-Dakar, super, quand même sympa.
Ouais, un beau Dakar. Ça a été une superbe année, des très bons résultats. Je suis passé pas loin des exploits sur les deux épreuves en fait finalement, parce qu'au Dakar je fais des 4 à 40 secondes à 40 secondes du podium.
Coupez-moi cette poteau.
et deux au Touquet à quelques mètres aussi de la victoire. Donc ça aurait pu être deux gros exploits, ça n'a pas été le cas. Donc je vais bosser encore un peu plus, ou en tout cas précise, enfin, rendre mon travail un peu plus précis pour regagner.
Très bien, merci. Bah, écoute, c'est générique, c'est terminé. C'est sympa d'être venu quand même.
Ah voilà. Ouais, franchement, ouais.
Je suppose que tu repars pour l'année prochaine, pour le Dakar.
Évidemment, évidemment. Championnat du monde des rallye raids et le Dakar. Et aussi le Touquet, déjà, je vous donne.
Et tiens, on t'a avancé ta moto, tu vois, c'est Denis Jackson. Salut Adrien.
J'ai l'impression qu'il y a ce
sujet. Compte
sur nous pour
voilà.
te
voilà.
suivre.
Ouais. Voilà.
Merci à mes amis de la piste aussi.
Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, vous êtes super, tous sympas. Puis rendez-vous l'année prochaine. Et en direct du salon de Pécancourt.
Avec plaisir.
Voilà. Et dimanche prochain.
Et on vous attend aujourd'hui là au salon. Hein. Venez nous dire bonjour.
On est là,
on est là. Un petit coup, faire un petit coucou. Voilà. Merci et à bientôt.
Salut,
à dimanche.